Nous poursuivons ces tables rondes avec différents acteurs d'initiatives citoyennes locales œuvrant donc dans le champ de la transition écologique et énergétique. Nous accueillons à présent Mickaël Lajeunesse, directeur d'Envirobat. Donc c'est une association. Vous êtes directeur, hein, c'est bien ça. Voilà. Donc Envirobat qui contribue à la visibilité des initiatives publiques et professionnelles, à capitaliser et à diffuser les bonnes pratiques professionnelles, notamment au travers de la valorisation des retours d'expérience. Vous avez lancé en 2023 un pacte bois et biosourcé qui sera signé par des maîtres d'ouvrage publics et privés en région qui s'engagent à mettre dans la réalisation des matériaux biosourcés. Vous œuvrez en fait à mettre en avant justement la dimension d'économie circulaire, la dimension locale en matière d'approvisionnement justement des matériaux nécessaires à la construction du bâtiment. C'est bien ça?
Oui, effectivement, l'enjeu d'Envirobat Centre, c'est de promouvoir le bâtiment durable au travers des matériaux, de l'énergie, des modes de construction. L'économie circulaire et l'utilisation de matériaux locaux rentrent effectivement en ligne de compte dans ces sujets-là.
Concernant donc ce pacte bois et biosourcé qui va être signé par des maîtres d'ouvrage publics et privés en région en 2023, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est mis en place ce pacte?
Alors, on est encore sur... Sur les prémices, la préparation de l'écriture et de la signature de ce pacte, c'est un projet qui est monté en partenariat avec Fibois Centre-Val de Loire, qui est l'interprofession de la filière bois, qui est là pour faire un peu ce qu'on fait nous sur l'ensemble du bâtiment durable, mais sur la filière bois de l'amont à l'aval. L'enjeu, c'est de sensibiliser, de fédérer des maîtres d'ouvrage, des porteurs de projets qui vont s'engager demain sur 4 ans à produire des bâtiments dans lesquels ils mettront une certaine quantité de matériaux biosourcés. Et aller sur une performance en termes de mise en œuvre de matériaux biosourcés. Et l'idée, c'est qu'ils s'engagent et qu'on puisse les accompagner sur cette durée-là pour répondre à leurs problématiques, leurs questions, les enjeux qu'ils ont et les difficultés qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure dans la mise en œuvre de ces matériaux.
Alors, les lois ont beaucoup évolué en matière de construction, justement, de logements, de bâti. Comment est-ce que vous vous inscrivez, justement, dans ces lois? Est-ce qu'elles sont un peu plus contraignantes, justement, pour les bâtisseurs, les constructeurs, les promoteurs immobiliers?
Alors, tout va dépendre de quel côté je me place. Si on se place du côté militant que doit avoir Envirobat Centre pour promouvoir le bâtiment durable, les règles de construction, la réglementation environnementale RE2020 qui est entrée en vigueur en début d'année, intègre la question de l'impact carbone des bâtiments, intègre la question de la nécessité de mettre en œuvre des matériaux biosourcés. Elle intègre cette question-là. Mais si on veut aller suffisamment vite et suffisamment loin pour réussir la transition nécessaire qu'on doit faire sur le bâtiment, de mon point de vue, on va pas assez vite, mais il faut arriver à acculturer l'ensemble de la filière, à former les entreprises, à former les architectes, à former l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour arriver à faire cette transition-là. L'enjeu, par ailleurs, il n'est pas uniquement sur la construction neuve, il est sur la rénovation. Et il est majoritairement sur la rénovation de nos bâtiments, parce qu'on vit dans des bâtiments qui sont pas passifs, qui sont des bâtiments pas forcément performants, de nombreuses passoires thermiques, et il y a un réel enjeu à travailler sur ces bâtiments-là.
Alors, je parlais de contraintes parce que concernant les matériaux, des fois, il coûte moins cher d'importer des matériaux qui viennent de loin que des matériaux d'origine locale.
Effectivement, après... les curseurs bougent aujourd'hui avec l'augmentation du prix de l'énergie qui augmente, la question du prix du transport. Et puis il y a un enjeu qui est très fort de développer des filières locales, notamment sur les matériaux dont on promeut énormément les matériaux biosourcés. Et l'enjeu, alors dans les matériaux biosourcés, on va retrouver le bois, on va retrouver d'autres matériaux, la paille, le chanvre, etc. Et l'enjeu, c'est d'arriver à développer des filières locales qui seront à même de répondre aux enjeux du bâtiment de demain et qui viendront en concurrence avec les matériaux traditionnels qui peuvent venir potentiellement de loin, mais qui viendront en concurrence en termes de performance et qui viendront en concurrence en termes de coûts économiques parce que on a peu de transport à faire, parce qu'on valorise aussi de la main-d'œuvre locale, parce qu'on crée une chaîne de valeur locale pour arriver à produire ces matériaux-là.
Alors, je pense à toutes celles et ceux qui sont sur les chantiers et qui doivent bâtir des murs, par exemple. On a toujours appris à ces apprentis maçons à se servir d'une truelle, de ciment, et puis donc ça peut être de la brique, du parpaing. Voilà. Aujourd'hui, quand vous me parlez, par exemple, de chanvre, de paille, il y a aussi toute une formation à faire auprès de ces bâtisseurs.
Il y a effectivement une formation à apporter, enfin une information et une formation derrière à apporter à l'ensemble des acteurs de la chaîne de construction, de l'architecte, encore une fois, l'artisan. Les acteurs sur le territoire se mobilisent. Si on parle de la paille, par exemple, il y a des règles professionnelles qui permettent la surabilité des projets en termes de construction, y compris sur la construction publique. La maîtrise d'ouvrage public et des formations qui sont liées à ces règles professionnelles qui sont dispensées sur les territoires par des acteurs à même de les dispenser. Et du coup, on est sur ce travail-là. Alors nous, Envirobat, on va être plutôt sur l'amont de tout ça, sur la sensibilisation pour aller donner envie aux acteurs de la construction d'aller se former et de commencer à mettre en œuvre ces matériaux-là biosourcés, de commencer à produire des bâtiments qui vont être passifs, de commencer à travailler sur l'économie circulaire et le réemploi dans leur construction, leur rénovation. On est voilà, sur ce volet-là, mais effectivement, il y a un gros enjeu de formation et d'accompagnement de l'ensemble de la filière. Et là, il y a un gros travail à mener pour que demain, dans tous les CFA du bâtiment, l'ensemble des apprenants, des apprentis soient formés à mettre en œuvre du béton de chanvre, de la paille en isolation ou n'importe quel isolant qui soit biosourcé ou voilà, en tout cas qui au mieux, au pire qu'on leur donne le goût d'aller chercher ça, d'aller creuser, d'être curieux et de pouvoir demain mettre en œuvre malgré tout s'ils ne sont pas formés dans leur formation initiale, d'aller chercher la formation derrière qui les amènera là-dessus. On travaille avec les CFA, on leur apporte, enfin, on est centre de ressources, du coup on va leur apporter certaines ressources. On essaie de faire aussi évoluer la sensibilisation que peuvent avoir à la fois les équipes enseignantes et puis les étudiants pour qu'ils aillent vers ces sujets-là. Mais c'est, voilà, c'est des référentiels de formation qui ne sont pas faciles à faire évoluer. Nous, on n'est pas sur ce travail-là, mais on apporte la matière. Typiquement, sur le référentiel de formation sur la maçonnerie, dernièrement, il a été intégré la question du béton de chanvre. Donc, ça bouge à la vitesse que ça peut bouger, parce que c'est des choses qui ne sont pas simples à mettre en œuvre, mais ça bouge et on essaie de les accompagner.
Alors, vous disiez que ça ne va pas assez vite. Pourquoi ? Quels sont les freins, justement, à votre développement ?
C'est pas tant les freins à notre développement, c'est les freins à la prise en compte des enjeux environnementaux dans le bâtiment. Nous, on fait ce qu'on peut, entre guillemets, avec les forces qu'on a. On est une petite association sur la région centre, on est 4 salariés, avec un soutien évidemment de l'ADEME, de la région, de l'ensemble des acteurs et puis des collectivités qui sont adhérentes chez nous. Malgré tout, la filière bâtiment, elle est très importante en nombre de structures, très diverses en termes de métiers, et il faut arriver à faire bouger et à faire monter en compétences l'ensemble de ces acteurs-là vers le bâtiment durable, et du coup ça prend du temps.
Alors, quand on parle de transition écologique et énergétique, on ne pense pas forcément au bâtiment, à l'habitat. Pourquoi est-ce que l'habitat représente un enjeu majeur pour la transition écologique ?
L'habitat, je ne vais pas donner de chiffres parce que je vais dire des bêtises, mais c'est un poste important de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc il y a déjà rien que là un enjeu pour atteindre nos objectifs à 2050 de travailler sur le bâtiment pour avoir des bâtiments qui soient, si ce n'est neutre en carbone ou en énergie, qui soient le plus économe possible pour arriver à... Chaque filière doit faire son travail. Et par ailleurs, et pour faire le lien avec l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, on le voit avec l'augmentation des prix de l'énergie, les particuliers sont un petit peu préservés à très court terme. Hein. Ils ne le seront pas forcément l'année prochaine ou les années qui suivent. Si on travaille sur la performance énergétique de l'habitat existant, on vient répondre à un besoin primaire de l'être humain, c'est se loger et se protéger du froid. Demain, si l'énergie est faite x2, x3, x4, x5, même pour le particulier n'a plus forcément, enfin, une certaine partie de la population n'aura plus la capacité de se chauffer correctement, de se loger correctement et d'avoir une vie décente chez soi.
Alors, vous l'avez dit, enfin, vous en avez parlé, le particulier, chacun peut justement, un particulier peut décider justement de construire un habitat qui prenne en compte justement des matières biosourcées, pourquoi pas avec de la paille, du chanvre, etc. Et concernant l'habitat collectif, est-ce que vous avez accompagné des projets d'habitat collectif de citoyens ou pour des bailleurs, je ne sais pas.
On a, alors, au-delà d'accompagner, parce qu'on est, ni assistant à maîtrise d'ouvrage, ni conseiller, mais on est là plutôt pour bâtir du retour d'expérience et suivre ce qui se fait en termes de réalisation exemplaire. Et en fait, ce qu'on peut faire sur l'habitat individuel, on peut le transposer très facilement sur l'habitat collectif. On peut faire des bâtiments en construction paille. Il y a un bailleur dans l'Est qui a fait le plus grand bâtiment en paille, en R+7, donc 8 niveaux, en comptant le rez-de-chaussée. Donc c'est possible. De même sur la construction bois et l'ensemble des techniques de construction durable, finalement, ça peut se transposer moyennant l'adaptation technique et les contraintes réglementaires, qui ne sont pas toujours simples, à tout type de bâtiment.
Alors, vous allez mettre en place, ou vous avez mis déjà en place le projet Terre Crue. C'est quoi ce projet Terre Crue ?
On essaie en tout cas de promouvoir et d'accompagner l'utilisation de la terre crue dans le bâtiment. La terre crue, finalement, ça va être la terre, souvent une terre du site, qui peut être mise en œuvre soit sous forme de briques de terre compressée. Donc, en général, la brique contient une grande partie d'argile qui permet une tenue. Mais l'idée, c'est de montrer l'enjeu, plutôt la capacité à cette terre d'être un matériau de construction, sachant que la terre est locale. Donc on a un circuit très très court, ça peut être soit une terre du site, soit une terre à proximité. On a également des terres qui peuvent rentrer dans la composition d'enduits qui sont issues du rinçage de sable dans les carrières, qui sont aujourd'hui un déchet. Ces terres-là peuvent être utilisées et intégrées dans des enduits. Donc on a encore une fois à cet endroit-là une capacité à développer une économie circulaire et à valoriser des déchets en les intégrant dans la construction.
Une sorte de retour en arrière, parce que ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas très loin de la Sologne et qu'on peut voir plein de maisons en terre cuite pour l'occasion, mais qui appartenaient justement à ce sol de Sologne. On en revient à des méthodes, encore une fois, traditionnelles, qui fonctionnaient très bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi est-ce que le bâtiment est devenu énergivore ? Pourquoi est-ce qu'il y a des passoires thermiques aujourd'hui ?
Ce qui s'est passé, c'est le fruit de l'histoire. On a découvert le ciment, notamment, dans les années, au XVIIIe siècle. Le ciment a donné une facilité, une simplicité à construire, en oubliant complètement les méthodes traditionnelles, qui étaient parfois plus complexes techniquement, qui ne donnaient pas la même capacité ou la même facilité de construction. Et du coup, avec le béton et le ciment, on a pu faire des bâtiments qui sont les bâtiments dans lesquels on vit aujourd'hui et qu'on croise tous les jours quand on circule en ville, mais qui sont à la fois énergivores dans la fabrication du ciment et puis la question de l'isolation derrière. Les bâtiments qu'on a construits dans les années 60 et 70 ou même dans les années 50 n'étaient pas isolés parce qu'on avait une énergie très très peu chère qui nous permettait de faire tout ça et de chauffer sans se poser la question. Aujourd'hui, on a une énergie qui a monté, on a des ressources qui s'amenuisent, en termes de ressources, que ce soit tout ce qui est sable et autres, et en termes énergétiques. Et du coup, il y a un réel enjeu de réapprendre ce qu'on a oublié. Je parlais tout à l'heure de terre crue. On vient transposer aujourd'hui des techniques qu'on va chercher en Afrique. Les briques de terre crue, par exemple, c'est des choses qui sont des méthodes de construction ancestrales et qu'on vient réapprendre et qu'on va retransposer chez nous parce qu'on a oublié. Mais finalement, on savait faire du pisé dans le sud de la France, on savait utiliser du torchis et autres. C'est pareil, de la même manière, une utilisation de la terre crue sans cuisson. Et faut réapprendre tout ça et réenseigner tout ça aussi dans les centres de formation.
Eh bien bravo, j'imagine que vous avez encore beaucoup à faire pour combattre, j'allais dire, l'hégémonie internationale, en tout cas nationale, de Bouygues ou autres Lafarge, qui vendent des dizaines de milliers de tonnes de ciment, pas cher, hein, pour construire voilà, rapidement, de manière solide, mais surtout pas durable en tout cas. Parce que quel est le problème du ciment? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui recycler du ciment? Je ne crois pas que ce soit possible.
Bah, le problème du ciment, c'est pas tant dans le recyclage, parce que finalement, de plus en plus, les filières se mettent en place pour recycler le ciment. On a beaucoup de déconstructions. Un bel exemple sur Chartres, où il y a eu des déconstructions de tours d'habitation. Ils ont recyclé le béton, ils l'ont broyé et réintégré dans du béton à nouveau en tant que granulat, donc les cailloux en fait, et auxquels derrière ils adjoignent du ciment et du sable pour refaire un béton qui respecte les normes. Mais la problématique, c'est que le ciment est énergivore dans sa fabrication. Et du coup, l'enjeu, il est là. C'est le bilan carbone, il commence à la fabrication du matériau. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réduire le bilan carbone global du bâtiment et de la filière. Et du coup, d'arriver à utiliser moins de ciment. On continuera à en utiliser. Il est nécessaire pour certaines utilisations. Mais je veux dire, on est partisans, nous, chez Envirobat, du bon matériau au bon endroit. Et de la mixité, parce que chaque matériau va avoir ses avantages, ses inconvénients, et du coup l'idée, c'est de pouvoir jongler avec ça et avoir le meilleur compromis possible, parce qu'on restera sur des compromis, mais qui rend le bâtiment le plus durable possible.
Merci Mickaël Lajeunesse. Donc je rappelle que vous êtes directeur d'Envirobat. Alors ce sera facile de vous retrouver en allant sur le site, on tape Envirobat tout simplement pour... Envirobat Centre, hein, bien évidemment, pour retrouver vos coordonnées et bénéficier de ce centre de ressources que vous êtes pour non seulement sensibiliser celles et ceux qui sont intéressés par une construction durable, et puis aussi pour poursuivre tous ces chantiers de partenariat, notamment que vous avez fait avec le CFA, pour que par exemple la filière paille ou chanvre soit intégrée dans le référentiel de formation. Merci à vous. Dans quelques instants, la suite de nos interviews.